Chapitre 16. Bataille de Waterloo. Le 18 juin 1815, vers midi, je sortis de Gand par la porte de Bruxelles. J'allais seul achever ma promenade sur la grande route. J'avais emporté les commentaires de César et je cheminais lentement, plongé dans ma lecture. J'étais déjà à plus d'une lieue de la ville lorsque je crus ouïr un roulement sourd. Je m'arrêtai, regardai le ciel assez chargé de nuées, délibérant en moi-même si je continuerais d'aller en avant ou si je me rapprocherais de Gand dans la crainte d'un orage. Je prêtai l'oreille. Je n'entendis plus que le cri d'une poule d'eau dans des joncs et le son d'une horloge de village. Je poursuivis ma route. Je n'avais pas fait 30 pas que le roulement recommença, tantôt bref, tantôt long et à intervalles inégaux. Quelquefois, il n'était sensible que par une trépidation de l'air, laquelle se communiquait à la terre sur ses plaines immenses, tant il était éloigné. Ces détonations moins vastes, moins onduleuses, moins liées ensemble que celles de la foudre, firent naître dans mon esprit l'idée d'un combat. Je me trouvais devant un peuplier planté à l'angle d'un champ de houblon. Je traversais le chemin et je m'appuyais debout contre le tronc de l'arbre, le visage tourné du côté de Bruxelles. Un vent du sud s'étant levé m'apporta plus distinctement le bruit de l'artillerie. Cette grande bataille, encore sans nom, dont j'écoutais les échos au pied d'un peuplier et dont une horloge de village venait de sonner les funérailles inconnues, était la bataille de Waterloo. Auditeur silencieux et solitaire du formidable arrêt des destinées, j'aurais été moins ému si je m'étais trouvé dans la mêlée. Le péril, le feu, la cohue de la mort ne m'eussent pas laissé le temps de méditer. Mais seul sous un arbre, dans la campagne de Gand, comme le berger des troupeaux qui paissaient autour de moi. Le poids des réflexions m'accablait. Quel était ce combat? Était-il définitif? Napoléon était-il là en personne? Le monde, comme la robe du Christ, était-il jeté au sort? Succès ou revers de l'une ou de l'autre armée? Quelle serait la conséquence de l'événement pour les peuples, liberté ou esclavage? Mais quel sang coulait! Chaque bruit parvenu à mon oreille n'était-il pas le dernier soupir d'un Français? Était-ce un nouveau Crécy, un nouveau Poitiers, un nouvel Azincourt, dont allaient jouir les plus implacables ennemis de la France? S'il triomphait, notre gloire n'était-elle pas perdue? Si Napoléon l'emportait, que devenait notre liberté? Bien qu'un succès de Napoléon m'ouvrît un exil éternel, la patrie l'emportait dans ce moment dans mon cœur. Mes vœux étaient pour l'oppresseur de la France s'il devait, en sauvant notre honneur, nous arracher à la domination étrangère. Wellington triomphait-il? La légitimité rentrerait donc dans Paris derrière ces uniformes rouges qui venaient de reteindre leur pourpre au sang des Français. La royauté aurait donc pour carrosse de son sacre les chariots d'ambulance remplis de nos grenadiers mutilés. Que sera-ce qu'une restauration accomplie sous de tels auspices? Ce n'est là qu'une bien petite partie des idées qui me tourmentaient. Chaque coup de canon me donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. À quelques lieues d'une catastrophe immense, je ne la voyais pas. Je ne pouvais toucher le vaste monument funèbre, croissant de minute en minute, à Waterloo, comme du rivage de Boulac, au bord du Nil. J'étendais vainement mes mains vers les pyramides. Aucun voyageur ne paraissait. Quelques femmes dans les champs, sarclant paisiblement des sillons de légumes, n'avait pas l'air d'entendre le bruit que j'écoutais. mais voici venir un courrier. Je quitte le pied de mon arbre et je me place au milieu de la chaussée. J'arrête le courrier et l'interroge. Il appartenait au duc de Berry et venait d'Alost. Il me dit « Bonaparte est entré hier, 17 juin, dans Bruxelles, après un combat sanglant. La bataille a dû recommencer aujourd'hui, 18 juin. On croit à la défaite définitive des Alliés et l'ordre de la retraite est donné. » Le courrier continua sa route. Je le suivis en me hâtant, je fus dépassé par la voiture d'un négociant qui fuyait en poste avec sa famille. Il me confirma le récit du courrier. Chapitre 17. Confusion à Gand. Quelle fut la bataille de Waterloo? Tout était dans la confusion quand je rentrai à Gand. On fermait les portes de la ville, les guichets seuls demeuraient entrebâillés. Des bourgeois mal armés et quelques soldats de dépôt faisaient sentinelle. Je me rendis chez le roi. Monsieur venait d'arriver par une route détournée. Il avait quitté Bruxelles sur la fausse nouvelle que Bonaparte y allait entrer, et qu'une première bataille perdue ne laissait aucune espérance du gain d'une seconde. On racontait que les Prussiens, ne s'étant pas trouvés en ligne, les Anglais avaient été écrasés. Sur ces bulletins, le « sauf qui peut » devint général. Les possesseurs de quelques ressources partirent. Moi, qui ai la coutume de n'avoir jamais rien, j'étais toujours prêt et dispo. Je voulais faire déménager avant moi Madame de Chateaubriand, grande bonapartiste, mais qui n'aime pas les coups de canon. Elle ne me voulut pas quitter. Le soir, conseil auprès de Sa Majesté. Nous entendîmes de nouveau les rapports de monsieur et les on-dit recueillis chez le commandant de la place ou chez le baron d'Eckstein. Le fourgon des diamants de la couronne était attelé. Je n'avais pas besoin de fourgon pour emporter mon trésor. J'enfermai le mouchoir de soie noire dont j'entortis ma tête la nuit dans mon flasque portefeuille de ministre de l'Intérieur et je me mis à la disposition du prince avec ce document important des affaires de la légitimité. J'étais plus riche dans ma première émigration quand mon havresac me tenait lieu d'oreiller et servait de maillot à Atala. Mais en 1815, Atala était une grande petite fille dégingandée de 13 à 14 ans qui courait le monde toute seule et qui, pour l'honneur de son père, avait fait trop parler d'elle. Le 19 juin, à 1 heure du matin, une lettre de M. Pozzo, transmise au roi par estafette, rétablit la vérité des faits. Bonaparte n'était point entré dans Bruxelles. Il avait décidément perdu la bataille de Waterloo. Parti de Paris le 12 juin, il rejoignit son armée le 14. Le 15, il force les lignes de l'ennemi sur la Sambre. Le 16, il bat les Prussiens dans ses champs de Fleurus, où la victoire semble à jamais fidèle aux Français. Les villages de Ligny et de Saint-Amand sont emportés. Aux quatre bras, nouveau succès. Le duc de Brunswick reste parmi les morts. Blücher, en pleine retraite, se rabat sur une réserve de 30 000 hommes, aux ordres du général de Bulow. Le duc de Wellington, avec les Anglais et les Hollandais, s'adosse à Bruxelles. Le 18 au matin, avant les premiers coups de canon, le duc de Wellington déclara qu'il pouvait tenir jusqu'à 3 heures. Mais qu'à 7 heures, si les Prussiens ne paraissaient pas, ils seraient nécessairement écrasés. Acculé sur Planchenoit et Bruxelles, toute retraite lui était interdite. Surpris par Napoléon, sa position militaire était détestable. Il l'avait acceptée et ne l'avait pas choisie. Les Français emportèrent d'abord à l'aile gauche de l'ennemi les hauteurs qui dominent le château d'Hougoumont jusqu'aux fermes de la Haie Sainte et de Papelotte. À l'aile droite, ils attaquèrent le village de Mons-Saint-Jean. La ferme de la Haie Sainte est enlevée au centre par le prince Jérôme. Mais la réserve prussienne paraît vers Saint-Lambert à 6 heures du soir. Une nouvelle et furieuse attaque est donnée au village de la Haie Sainte. Blücher survient avec des troupes fraîches et isole du reste de nos troupes, déjà rompues, les carrés de la garde impériale. Autour de cette phalange immobile, le débordement des fuyards entraîne tout parmi des flots de poussière, de fumée ardente et de mitraille, dans des ténèbres sillonnées de fusées à la Congrève, au milieu des rugissements de 300 pièces d'artillerie et du galop précipité de 25 000 chevaux. C'était comme le sommaire de toutes les batailles de l'Empire. Deux fois les Français ont crié « Victoire !» Deux fois leurs cris sont étouffés sous la pression des colonnes ennemies. Le feu de nos lignes s'éteint. Les cartouches sont épuisées. Quelques grenadiers blessés au milieu de 30 000 morts. De 100 000 boulets sanglants, refroidis et conglobés à leurs pieds, restent debout, appuyés sur leurs mousquets, baïonnettes brisées, canons sans charge. Non loin d'eux, l'homme des batailles écoutait, l'œil fixe, le dernier coup de canon qu'il devait entendre de sa vie. Dans ces champs de carnage, son frère Jérôme combattait encore avec ses bataillons expirants accablés par le nombre. Mais son courage ne peut ramener la victoire. Le nombre des morts du côté des Alliés était estimé à 18 000 hommes, du côté des Français à 25 000. 1 200 officiers anglais avaient péri. Presque tous les aides de camp du duc de Wellington étaient tués ou blessés. Il n'y eut pas en Angleterre une famille qui ne prit le deuil. Le prince d'Orange avait été atteint d'une balle à l'épaule. Le baron de Vincent, ambassadeur d'Autriche, avait eu la main percée. Les Anglais furent redevables du succès aux Irlandais et à la brigade des montagnards écossais, que les charges de notre cavalerie ne purent rompre. Le corps du général Grouchy, ne s'étant pas avancé, ne se trouva point à l'affaire. Les deux armées croisèrent le fer et le feu avec une bravoure et un acharnement qu'animait une inimitié nationale de 10 siècles. Lord Castlereagh, rendant compte de la bataille à la Chambre des Lords, disait « Les soldats anglais et les soldats français, après l'affaire, lavaient leurs mains sanglantes dans un même ruisseau, et d'un bord à l'autre se congratulaient mutuellement sur leur courage. Wellington avait toujours été funeste à Bonaparte, ou plutôt le génie rival de la France, le génie anglais, barrait le chemin à la victoire. Aujourd'hui, les Prussiens réclament contre les Anglais l'honneur de cette affaire décisive. Mais, à la guerre, ce n'est pas l'action accomplie, c'est le nom qui fait le triomphateur. Ce n'est pas Bonaparte qui a gagné la véritable bataille d'Iéna. » Les fautes des Français furent considérables. Ils se trompèrent sur des corps ennemis ou amis. Ils occupèrent trop tard la position des quatre bras. Le maréchal Grouchy, qui était chargé de contenir les Prussiens avec ses 36 000 hommes, les laissa passer sans les voir. De là des reproches que nos généraux se sont adressés. Bonaparte attaqua de front, selon sa coutume, au lieu de tourner les Anglais, et s'occupa, avec la présomption du maître, de couper la retraite à un ennemi qui n'était pas vaincu. Beaucoup de menteries et quelques vérités assez curieuses ont été débitées sur cette catastrophe. Le mot « la garde meurt et ne se rend pas » est une invention qu'on n'ose plus défendre. Il paraît certain qu'au commencement de l'action, Soult fit quelques observations stratégiques à l'empereur. « Parce que Wellington vous a battu, lui répondit sèchement Napoléon, vous croyez toujours que c'est un grand général. » À la fin du combat, M. de Turenne pressa Bonaparte de se retirer pour éviter de tomber entre les mains de l'ennemi. Bonaparte, sorti de ses pensées comme d'un rêve, s'emporta d'abord. Puis tout à coup, au milieu de sa colère, il s'élance sur son cheval et fuit. Chapitre 18. Retour de l'empereur, réapparition de Lafayette, nouvelle abdication de Bonaparte, séances orageuses à la Chambre des Pairs, présage menaçant pour la seconde restauration. Le 19 juin, 100 coups de canon des Invalides avaient annoncé les succès de Ligny, de la Sambre, de Charleroi, des Quatre Bras. On célébrait des victoires, mortes la veille à Waterloo. Le premier courrier qui transmit à Paris la nouvelle de cette défaite, une des plus grandes de l'histoire par ses résultats, fut Napoléon lui-même. Il rentra dans les barrières la nuit du 21. On eût dit de ses mânes revenant pour apprendre à ses amis qu'il n'était plus. Il descendit à l'Élysée Bourbon. Lorsqu'il arriva de l'île d'Elbe, il était descendu aux Tuileries. Ces deux asiles, instinctivement choisis, révélaient le changement de sa destinée. Tombé à l'étranger dans un noble combat, Napoléon eut à supporter à Paris les assauts des avocats qui voulaient mettre à sac ses malheurs. Il regrettait de n'avoir pas dissous la Chambre avant son départ pour l'armée. Il s'est souvent aussi repenti de n'avoir pas fait fusiller Fouché et Talleyrand. Mais il est certain que Bonaparte, après Waterloo, s'interdit toute violence. Soit qu'il obéit au calme habituel de son tempérament, soit qu'il fût dompté par la destinée. Il ne dit plus comme avant sa première abdication « On verra ce que c'est que la mort d'un grand homme ». Cette verve était passée. Antipathique à la liberté, il songea à casser cette chambre des représentants que présidait Lanjuinais. De citoyen devenu sénateur, de sénateur devenu pair, de pair redevenu citoyen, de citoyen allant redevenir pair. Le général Lafayette, député, lut à la tribune une proposition qui déclarait « la Chambre en permanence, crime de haute trahison, toute tentative pour la dissoudre, traître à la patrie, et jugée comme telle, quiconque s'en rendrait coupable. » 21 juin 1815. Le discours du général commençait par ces mots. « Messieurs, lorsque pour la première fois depuis bien des années, j'élève une voix que les vieux amis de la liberté reconnaîtront encore, je me sens appelé à vous parler du danger de la patrie. Voici l'instant de nous rallier autour du drapeau tricolore, de celui de 89, celui de la liberté, de l'égalité et de l'ordre public. » L'anachronisme de ce discours causa un moment d'illusion. On crut voir la Révolution personnifiée dans Lafayette sortir du tombeau et se présenter pâle et ridée à la tribune. Mais ces motions d'ordre, renouvelées de Mirabeau, n'étaient plus que des armes hors d'usage, tirées d'un vieil arsenal. Si Lafayette rejoignait noblement la fin et le commencement de sa vie, il n'était pas en son pouvoir de souder les deux bouts de la chaîne rompue du temps. Benjamin Constant se rendit auprès de l'empereur à l'Élysée Bourbon. Il le trouva dans son jardin. La foule remplissait l'avenue de Marigny et criait « Vive l'empereur !» Cri touchant échappé des entrailles populaires. Il s'adressait aux vaincus. Bonaparte dit à Benjamin Constant « Que me doivent ceux-ci ? Je les ai trouvés, je les ai laissés, pauvres. » C'est peut-être le seul mot qui lui soit sorti du cœur, si toutefois l'émotion du député n'a pas trompé son oreille. Bonaparte, prévoyant l'événement, vint au-devant de la sommation qu'on se préparait à lui faire. Il abdiqua pour n'être pas contraint d'abdiquer. « Ma vie politique est finie, dit-il. Je déclare mon fils, sous le nom de Napoléon II, empereur des Français. » Inutile disposition, telle que celle de Charles X en faveur de Henri V. On ne donne des couronnes que lorsqu'on les possède, et les hommes cassent le testament de l'adversité. D'ailleurs, l'empereur n'était pas plus sincère en descendant du trône une seconde fois qu'il ne l'avait été dans sa première retraite. Aussi, lorsque les commissaires français allèrent apprendre au duc de Wellington que Napoléon avait abdiqué, il leur répondit « Je le savais depuis un an ». La Chambre des représentants, après quelques débats où Manuel prit la parole, accepta la nouvelle abdication de son souverain, mais vaguement et sans nommer de régence. Une commission exécutive est créée. Le duc d'Otrante la préside. 3 ministres, un conseiller d'État et un général de l'empereur la composent et dépouillent de nouveau leur maître. C'étaient Fouché, Caulaincourt, Carnot, Quinet et Grenier. Pendant ces transactions, Bonaparte retournait ses idées dans sa tête. « Je n'ai plus d'armée, disait-il. Je n'ai plus que des fuyards. La majorité de la Chambre des députés est bonne. Je n'ai contre moi que Lafayette, Lanjuinet et quelques autres. Si la nation se lève, l'ennemi sera écrasé. Si au lieu d'une levée, on dispute, tout sera perdu. La nation n'a pas envoyé les députés pour me renverser, mais pour me soutenir. Je ne les crains point, quelque chose qu'ils fassent. Je serai toujours l'idole du peuple et de l'armée. Si je disais un mot, ils seraient assommés. Mais si nous nous querellons au lieu de nous entendre, nous aurons le sort du bas empire. » Une députation de la Chambre des représentants étant venue le féliciter sur sa nouvelle abdication, il répondit « Je vous remercie, je désire que mon abdication puisse faire le bonheur de la France, mais je ne l'espère pas. » Il se repentit bientôt après, lorsqu'il apprit que la Chambre des représentants avait nommé une commission de gouvernement composée de 5 membres. Il dit au ministre « Je n'ai point abdiqué en faveur d'un nouveau directoire, j'ai abdiqué en faveur de mon fils. Si on ne le proclame point, mon abdication est nulle et non avenue. Ce n'est point en se présentant devant les alliés l'oreille basse et le genou en terre que les chambres les forceront à reconnaître l'indépendance nationale. » Il se plaignait que Lafayette, Sébastiani, Pontécoulant, Benjamin Constant avaient conspiré contre lui, que d'ailleurs les chambres n'avaient pas assez d'énergie. Il disait que lui seul pouvait tout réparer, mais que les meneurs n'y consentiraient jamais, qu'ils aimeraient mieux s'engloutir dans l'abîme que de s'unir avec lui, Napoléon, pour le fermer. Le 27 juin, à la Malmaison, il écrivit cette sublime lettre. « En abdiquant le pouvoir, je n'ai pas renoncé au plus noble droit du citoyen, au droit de défendre mon pays. Dans ces graves circonstances, j'offre mes services comme général, me regardant encore comme le premier soldat de la patrie. » Le duc de Bassano, lui ayant représenté que les chambres ne seraient pas pour lui, « Alors je le vois bien, dit-il, il faut toujours céder. Cet infâme Fouché vous trompe. Il n'y a que Caulaincourt et Carnot qui valent quelque chose. Mais que peuvent-ils faire avec un traître, Fouché, et 2 niais, Quinet et Grenier, et 2 chambres qui ne savent ce qu'elles veulent? Vous croyez tous comme des imbéciles aux belles promesses des étrangers. Vous croyez qu'ils vous mettront la poule au pot et qu'ils vous donneront un prince de leur façon, n'est-ce pas? Vous vous trompez. » Entre parenthèses, voyez les œuvres de Napoléon, tome 1er, dernière page, note de l'auteur. Des plénipotentiaires furent envoyés aux alliés. Napoléon requit, le 29 juin, 2 frégates, stationnées à Rochefort, pour le transporter hors de France. En attendant, il s'était retiré à la Malmaison. Les discussions étaient vives à la Chambre des pairs. Longtemps ennemi de Bonaparte, Carnot, qui signait l'ordre des égorgements d'Avignon sans avoir le temps de le lire, avait eu le temps, pendant les 100 jours, d'immoler son républicanisme au titre de comte. Le 22 juin, il avait lu au Luxembourg une lettre du ministre de la guerre, contenant un rapport exagéré sur les ressources militaires de la France. Ney, nouvellement arrivé, ne put entendre ce rapport sans colère. Napoléon, dans ses bulletins, avait parlé du maréchal avec un mécontentement mal déguisé. et Courgaud accusa Ney d'avoir été la principale cause de la perte de la bataille de Waterloo. Ney se leva et dit « Ce rapport est faux, faux de tout point. Grouchy ne peut avoir sous ses ordres que 20 à 25 000 hommes tout au plus. Il n'y a plus un seul soldat de la garde à rallier. Je la commandais. Je l'ai vue massacrée tout entière avant de quitter le champ de bataille. L'ennemi est à Nivelles, avec 80 000 hommes. Il peut être à Paris dans 6 jours. Vous n'avez d'autre moyen de sauver la patrie que d'ouvrir des négociations. » L'aide de camp Flao voulut soutenir le rapport du ministre de la guerre. Ney répliqua avec une nouvelle véhémence. « Je le répète, vous n'avez d'autre voie de salut que la négociation. Il faut que vous rappeliez les Bourbons. Quant à moi, je me retirerai aux États-Unis. » À ces mots, La Valette et Carnot accablèrent le maréchal de reproches. Ney leur répondit avec dédain. « Je ne suis pas de ces hommes pour qui leur intérêt est tout. Que gagnerais-je au retour de Louis XVIII ? D'être fusillé pour crime de désertion. Mais je dois la vérité à mon pays. » Dans les séances des pairs du 23, le général Drouot, rappelant cette scène, dit « J'ai vu avec chagrin ce qui fut dit hier pour diminuer la gloire de nos armes, exagérer nos désastres et diminuer nos ressources. Mon étonnement a été d'autant plus grand que ces discours étaient prononcés par un général distingué, Ney, qui, par sa grande valeur et ses connaissances militaires, a tant de fois mérité la reconnaissance de la nation. » Dans la séance du 22, un second orage avait éclaté à la suite du premier. Il s'agissait de l'abdication de Bonaparte. Lucien insistait pour qu'on reconnût son neveu empereur. Monsieur de Pontécoulant interrompit l'orateur et demanda de quel droit Lucien, étranger et prince romain, se permettait-il de donner un souverain à la France. « Comment, ajouta-t-il, reconnaître un enfant qui réside en pays étranger ?» À cette question, la Bédoyère, s'agitant devant son siège, « J'ai entendu des voix autour du trône du souverain heureux. Elle s'en éloigne, aujourd'hui, qu'il est dans le malheur. Il y a des gens qui ne veulent pas reconnaître Napoléon II parce qu'ils veulent recevoir la loi de l'étranger, à qui ils donnent le nom d'allié. L'abdication de Napoléon est indivisible. Si l'on ne veut pas reconnaître son fils, il doit tenir l'épée, environné de Français qui ont versé leur sang pour lui et qui sont encore tout couverts de blessures. Il sera abandonné par de vils généraux qui l'ont déjà trahi. Mais si l'on déclare que tout Français qui quittera son drapeau sera couvert d'infamie, sa maison rasée, sa famille proscrite, alors plus de traîtres, plus de manœuvres qui ont occasionné les dernières catastrophes et dont peut-être quelques auteurs siègent ici. La chambre se lève en tumulte. « À l'ordre, à l'ordre, à l'ordre » mugit-on, blessé du coup. « Jeune homme, vous vous oubliez !» s'écria Masséna. « Vous vous croyez encore au corps de garde !» disait Lamette. Tous les présages de la seconde restauration furent menaçants. Bonaparte était revenu à la tête de 400 Français. Louis XVIII revenait derrière 400 000 étrangers. Il passa près de la mare de sang de Waterloo pour aller à Saint-Denis comme à sa sépulture. C'était pendant que la légitimité s'avançait ainsi que retentissaient les interpellations de la Chambre des Pairs. Il y avait là je ne sais quoi de ces terribles scènes révolutionnaires au grand jour de nos malheurs, quand le poignard circulait au tribunal entre les mains des victimes. Quelques militaires, dont la funeste fascination avait amené la ruine de la France en déterminant la seconde invasion de l'étranger, se débattaient sur le seuil du palais. Leur désespoir prophétique, leurs gestes, leurs paroles de la tombe semblaient annoncer une triple mort. Mort à eux-mêmes, mort à l'homme qu'ils avaient béni, mort à la race qu'ils avaient proscrite.